Émile Zola, la curée. Chapitre 1. Au retour, dans l'encombrement des voitures qui rentraient par le bord du lac, la calèche dut marcher au pas. Un moment, l'embarras devint tel qu'il lui fallut même s'arrêter. Le soleil se couchait dans un ciel d'octobre, d'un gris clair, strié à l'horizon de minces nuages. Un dernier rayon, qui tombait des massifs lointains de la cascade, enfilait la chaussée, baignant d'une lumière rousse et pâlie la longue suite des voitures devenues immobiles. Les lueurs d'or, les éclairs vifs que jetaient les roues, semblaient s'être fixés le long des rechampis jaune paille de la calèche, dont les panneaux, gros bleus, reflétaient des coins du paysage environnant. Et, plus haut, en plein dans la clarté rousse qui les éclairait par derrière et qui faisait luire les boutons de cuivre de leurs capotes à demi pliées, retombant du siège, le cocher et le valet de pied, avec leurs livrées bleu sombre, leurs culottes mastiques et leurs gilets rayés noirs et jaunes, se tenaient raides, graves et patients, comme des laquais de bonne maison qu'un embarras de voiture ne parvient pas à fâcher. Leurs chapeaux, ornés d'une cocarde noire, avaient une grande dignité. Seuls les chevaux, un superbe attelage bai, soufflaient d'impatience. « Tiens, dit Maxime, Lord d'Origny là-bas dans ce coupé. Vois donc, René !» René se souleva légèrement, cligna les yeux, avec cette moue exquise que lui faisait faire la faiblesse de sa vue. « Je la croyais en fuite, dit-elle. Elle a changé la couleur de ses cheveux, n'est-ce pas ?»« Oui, reprit Maxime en riant. Son nouvel amant déteste le rouge. » René, penché en avant, la main appuyée sur la portière basse de la calèche, regardait, éveillé du rêve triste qui, depuis une heure, la tenait silencieuse, allongée au fond de la voiture, comme dans une chaise longue de convalescente. Elle portait sur une robe de soie mauve, à tablier et à tunique, garnie de larges volants plissés, un petit paletot de drap blanc, au revers de velours mauve, qui lui donnait un grand air de crânerie. Ses étranges cheveux fauves pâles, dont la couleur rappelait celle du beurre fin, étaient à peine cachés par un mince chapeau orné d'une touffe de rose du Bengale. Elle continuait à cligner des yeux avec sa mine de garçon impertinent, son front pur traversé d'une grande ride, sa bouche, dont la lèvre supérieure avançait, ainsi que celle des enfants boudeurs. Puis, comme elle voyait mal, elle prit son binocle, un binocle d'homme à garniture d'écailles, et, le tenant à la main sans se le poser sur le nez, elle examina la grosse Laure d'Origny tout à son aise, d'un air parfaitement calme. Les voitures n'avançaient toujours pas. Au milieu des taches unies, de teintes sombres, que faisait la longue file des coupés, fort nombreux au bois par cet après-midi d'automne, brillait le coin d'une glace, le mors d'un cheval, la poignée argentée d'une lanterne, les galons d'un laquais, haut placé sur son siège. Çà et là, dans un landau découvert, éclatait un bout d'étoffe, un bout de toilette de femme, soie ou velours. Il était peu à peu tombé un grand silence sur tout ce tapage éteint, devenu immobile. On entendait, du fond des voitures, les conversations des piétons. Il y avait des échanges de regards muets, de portières à portières. Et personne ne causait plus, dans cette attente, que coupaient seuls les craquements des harnais et le coup de sabot impatient d'un cheval. Au loin, les voix confuses du bois se mouraient. Malgré la saison avancée, tout Paris était là. La duchesse de Sterling, en 8 ressorts, Madame de Lowerens, en Victoria, très correctement attelée, la baronne de Meinhold, dans un ravissant cab baie brun, la comtesse Vanska, avec ses poneys pis, Madame d'Ast et ses fameux tapers noirs, Madame de Gwend et Madame Tessière, en coupé, la petite Sylvia, dans un landau gros bleu, et encore Don Carlos, en deuil, avec sa livrée antique et solennelle. Selim Pacha, avec son fez et sans son gouverneur, la duchesse de Rosan, en coupé égoïste, avec sa livrée poudrée à blanc. Monsieur le comte de Chilbray, en dog-cart. Monsieur Simpson, en maigle de la plus belle tenue. Toute la colonie américaine. Enfin, 2 académiciens en fiacre. Les premières voitures se dégagèrent et, de proche en proche, toute la file se mit bientôt à rouler doucement. Ce fut comme un réveil. 1000 clartés dansantes s'allumèrent, des éclairs rapides se croisèrent dans les roues, des étincelles jaillirent des harnais secoués par les chevaux. Il y eut sur le sol, sur les arbres, de larges reflets de glace qui couraient. Ce pétillement des harnais et des roues, ce flamboiement des panneaux vernis dans lesquels brûlait la braise rouge du soleil couchant, ces notes vives que jetaient les livrées éclatantes perchées en plein ciel et les toilettes riches débordant des portières, se trouvèrent ainsi emportées dans un grondement sourd, continu, rythmé par le trot des attelages. Et le défilé alla, dans les mêmes bruits, dans les mêmes lueurs, sans cesse et d'un seul jet, comme si les premières voitures eussent tiré toutes les autres après elles. René avait cédé à la secousse légère de la calèche, se remettant en marche, et, laissant tomber son binocle, s'était de nouveau renversé à demi sur les coussins. Elle attira frileusement à elle un coin de la peau d'ours qui emplissait l'intérieur de la voiture d'une nappe de neige soyeuse. Ses mains gantées se perdirent dans la douceur des longs poils frisés. Une bise se levait. Le tiède après-midi d'octobre, qui, en donnant au bois un regain de printemps, avait fait sortir les grandes mondaines en voiture découverte, menaçait de se terminer par une soirée d'une fraîcheur aiguë. Un moment, la jeune femme resta pelotonnée, retrouvant la chaleur de son coin, s'abandonnant au bercement voluptueux de toutes ses roues qui tournaient devant elle. Puis, levant la tête vers Maxime, dont les regards déshabillaient tranquillement les femmes étalées dans les coupés et dans les landaux voisins. « Vrai ! » demanda-t-elle. « Est-ce que tu la trouves jolie, cette Lord Origny ? Vous en faisiez un éloge l'autre jour lorsqu'on a annoncé la vente de ces diamants. À propos, tu n'as pas vu la rivière et l'aigrette que ton père m'a achetée à cette vente ?» La jeune femme eut un léger mouvement d'épaule. « Certes, il fait bien les choses, » dit Maxime sans répondre, avec un rire méchant. « Il trouve moyen de payer les dettes de l'or et de donner des diamants à sa femme. »« Vaut rien !» murmura-t-elle en souriant. Mais le jeune homme s'était penché, suivant des yeux une dame dont la robe verte l'intéressait. René avait reposé sa tête, les yeux demi-clos, regardant paresseusement des deux côtés de l'allée, sans voir. À droite, filaient doucement des taillis, des futaies basses, aux feuilles roussies, aux branches grêles. Par instant, sur la voie réservée aux cavaliers, passaient des messieurs à la taille mince, dont les montures, dans leur galop, soulevaient de petites fumées de sable fin. À gauche, au bas des étroites pelouses qui descendent, coupées de corbeilles et de massifs, le lac dormait, d'une propreté de cristal, sans une écume, comme taillée nettement sur ses bords par la bêche des jardiniers. Et de l'autre côté de ce miroir clair, les deux îles, entre lesquelles le pont qui les joint faisait une barre grise, dressaient leurs falaises aimables, alignées sur le ciel pâle les lignes théâtrales de leurs sapins, de leurs arbres au feuillage persistant, dont l'eau reflétait les verdures noires, pareilles à des franges de rideaux savamment drapées au bord de l'horizon. Ce coin de nature, ce décor qui semblait fraîchement peint, baignait dans une ombre légère, dans une vapeur bleuâtre qui achevait de donner au lointain un charme exquis, un air d'adorable fausseté. Sur l'autre rive, le chalet des îles, comme verni de la veille, avait des luisants de joujoux neufs. Et ses rubans de sable jaune, ses étroites allées de jardin, qui serpentent dans les pelouses et tournent autour du lac, bordées de branches de fonte imitant des bois rustiques, tranchaient plus étrangement à cette heure dernière sur le vert attendri de l'eau et du gazon. Accoutumé aux grâces savantes de ses points de vue, René, reprise par ses lassitudes, avait baissé complètement les paupières, ne regardant plus que ses doigts minces qui enroulaient sur leur fuseau les longs poils de la peau d'ours. Mais il y eut une secousse dans le trot régulier de la file des voitures, et, levant la tête, elle salua deux jeunes femmes couchées côte à côte, avec une langueur amoureuse, dans un huit ressorts qui quittait à grand fracas le bord du lac pour s'éloigner par une allée latérale. Madame la marquise d'Espanay, dont le mari, alors aide de camp de l'empereur, venait de se rallier bruyamment au scandale de la vieille noblesse boudeuse, était une des plus illustres mondaines du Second Empire. L'autre, Madame Hafner, avait épousé un fameux industriel de Colmar, 20 fois millionnaire, et dont l'empire faisait un homme politique. René, qui avait connu en pension les deux inséparables, comme on les nommait d'un air fin, les appelait Adeline et Suzanne, de leur petit nom. Et, comme, après leur avoir souri, elle allait se pelotonner de nouveau, un rire de Maxime la fit tourner. « Non, vraiment, je suis triste. Ne ris pas, c'est sérieux !» dit-elle en voyant le jeune homme qui la contemplait railleusement, en se moquant de son attitude penchée. Maxime prit une voix drôle. « Nous aurions de gros chagrins? Nous serions jalouses ?» Elle parut toute surprise. « Moi ? » dit-elle. « Pourquoi jalouse ?» Puis elle ajouta, avec sa moue de dédain, comme se souvenant, « Ah oui, la grosse Laure, je n'y pense guère, va. Si Aristide, comme vous voulez tous me le faire entendre, a payé les dettes de cette fille et lui a évité ainsi un voyage à l'étranger, c'est qu'il aime l'argent moins que je ne le croyais. Cela va le remettre en faveur auprès des dames. Le cher homme, je le laisse bien libre. » Elle souriait. Elle disait « le cher homme » d'un ton plein d'une indifférence amicale. Et subitement, redevenue très triste, promenant autour d'elle ce regard désespéré des femmes qui ne savent à quel amusement se donner, elle murmura « oh, je voudrais bien, mais non, je ne suis pas jalouse du tout. » Elle s'arrêta, hésitante. « Vois-tu, je m'ennuie, » dit-elle enfin d'une voix brusque. Alors elle se tut, les lèvres pincées. La file des voitures passait toujours le long du lac, d'un trot égal, avec un bruit particulier de cataracte lointaine. Maintenant, à gauche, entre l'eau et la chaussée, se dressaient des petits bois d'arbres verts, aux troncs minces et droits, qui formaient de curieux faisceaux de colonnettes. À droite, les taillis, les futaies basses avaient cessé. Le bois s'était ouvert en larges pelouses, en immenses tapis d'herbes plantés çà et là d'un bouquet de grands arbres. Les nappes vertes se suivaient, avec des ondulations légères, jusqu'à la porte de la muette, dont on apercevait très loin la grille basse, pareille à un bout de dentelle noire tendu au ras du sol. Et sur les pentes, aux endroits où les ondulations se creusaient, l'herbe était toute bleue. René regardait, les yeux fixes, comme si cet agrandissement de l'horizon, ces prairies molles, trempées par l'air du soir, lui eussent fait sentir plus vivement le vide de son être. Au bout d'un silence, elle répéta, avec l'accent d'une colère sourde, « Oh, je m'ennuie à mourir !»« Sais-tu que tu n'es pas gai ?» dit tranquillement Maxime. « Tu as tes nerfs, c'est sûr !» La jeune femme se jeta au fond de la voiture. « Oui, j'ai mes nerfs !» répondit-elle sèchement. Puis elle se fit maternelle. « Je deviens vieille, mon cher enfant. J'aurai 30 ans bientôt. C'est terrible !» Je ne prends de plaisir à rien. À 20 ans, tu ne peux savoir. Est-ce que c'est pour te confesser que tu m'as emmené ? Interrompit le jeune homme. Ce serait diablement long. Elle accueillit cette impertinence avec un faible sourire, comme une boutade d'enfant gâté à qui tout est permis. Je te conseille de te plaindre, continua Maxime. Tu dépenses plus de 100 000 francs par an pour ta toilette, tu habites un hôtel splendide, tu as des chevaux superbes, tes caprices font loi, et les journaux parlent de chacune de tes robes nouvelles comme d'un événement de la dernière gravité. Les femmes te jalousent, les hommes donneraient 10 ans de leur vie pour te baiser le bout des doigts. Est-ce vrai ? Elle fit de la tête un signe affirmatif, sans répondre. Les yeux baissés, elle s'était remise à friser les poils de la peau d'ours. « Ah, ne sois pas modeste !» poursuivit Maxime. « Avoue carrément que tu es une des colonnes du Second Empire. Entre nous, on peut se dire ces choses-là. Partout, aux Tuileries, chez les ministres, chez les simples millionnaires, en bas et en haut, tu règnes en souveraine. Il n'y a pas de plaisir où tu n'aies mis les deux pieds. Et si j'osais, si le respect que je te dois ne me retenait pas, je dirais... » Il s'arrêta quelques secondes, riant, puis il acheva cavalièrement sa phrase. « Je dirais que tu as mordu à toutes les pommes. » Elle ne sourcilla pas. « Et tu t'ennuies !» reprit le jeune homme avec une vivacité comique. « C'est un meurtre ! Que veux-tu ? Que rêves-tu donc ?» Elle haussa les épaules pour dire qu'elle ne savait pas. Bien qu'elle penchât la tête, Maxime la vit alors si sérieuse, si sombre, qu'il se tut. Il regarda la file des voitures qui, arrivant au bout du lac, s'élargissait, emplissait le large carrefour. Les voitures, moins serrées, tournaient avec une grâce superbe. Le trot plus rapide des attelages sonnait hautement sur la terre dure. La calèche, en faisant le grand tour pour prendre la file, eut une oscillation qui pénétra Maxime d'une volupté vague. Alors, cédant à l'envie d'accabler René, « Tiens, dit-il, tu mériterais d'aller en fiacre, ce serait bien fait. Hé, regarde ce monde qui rentre à Paris, ce monde qui est à tes genoux. On te salue comme une reine, et peu s'en faut que ton bon ami, Monsieur de Mussy, ne t'envoie des baisers. » En effet, un cavalier saluait René. Maxime avait parlé d'un ton hypocritement moqueur, mais René se tourna à peine, haussa les épaules. Cette fois, le jeune homme eut un geste désespéré. « Vrai, dit-il, nous en sommes là ? « Mais bon Dieu, tu as tout! Que veux-tu encore ?» René leva la tête. Elle avait dans les yeux une clarté chaude, un ardent besoin de curiosité inassouvi. « Je veux autre chose, » répondit-elle à demi-voix. « Mais puisque tu as tout, » reprit Maxime en riant, « autre chose, ce n'est rien. Quoi, autre chose ?»« Quoi ?» répéta-t-elle. Et elle ne continua pas. Elle s'était tout à fait tournée. Elle contemplait l'étrange tableau qui s'effaçait derrière elle. La nuit était presque venue. Un lent crépuscule tombait comme une cendre fine. Le lac, vu de face, dans le jour pâle qui traînait encore sur l'eau, s'arrondissait, pareil à une immense plaque d'étain. Aux deux bords, les bois d'arbres verts, dont les troncs minces et droits semblent sortir de la nappe dormante, prenaient à cette heure des apparences de colonnades violâtres, dessinant de leur architecture régulière les courbes étudiées des rives. Puis, au fond, des massifs montaient, de grands feuillages confus, de larges taches noires fermaient l'horizon. Il y avait là, derrière ces taches, une lueur de braise, un coucher de soleil à demi éteint qui n'enflammait qu'un bout de l'immensité grise. Au-dessus de ce lac immobile, de ses futaies basses, de ce point de vue si singulièrement plat, le creux du ciel s'ouvrait, infini, plus profond et plus large. Ce grand morceau de ciel, sur ce petit coin de nature, avait un frisson, une tristesse vague. Et il tombait de ces hauteurs pâlissantes une telle mélancolie d'automne, une nuit si douce et si navrée, que le bois, peu à peu enveloppé dans un linceul d'ombre, perdait ses grâces mondaines, agrandi, tout plein du charme puissant des forêts. Le trot des équipages, dont les ténèbres éteignaient les couleurs vives, s'élevait, semblable à des voix lointaines de feuilles et d'eau courante. Tout allait en se mourant. Dans l'effacement universel, au milieu du lac, la voile latine de la grande barque de promenade se détachait, nette et vigoureuse, sur la lueur de braise du couchant. Et l'on ne voyait plus que cette voile, que ce triangle de toile jaune élargi démesurément. René, dans ses satiétés, éprouva une singulière sensation de désirs inavouables, à voir ce paysage qu'elle ne reconnaissait plus, cette nature si artistement mondaine, et dont la grande nuit frissonnante faisait un bois sacré, une de ces clairières idéales au fond desquelles les anciens dieux cachaient leurs amours géantes, leurs adultères et leurs incestes divins. Et, à mesure que la calèche s'éloignait, il lui semblait que le crépuscule emportait derrière elle, dans ses voiles tremblants, la terre du rêve, l'alcôve honteuse et surhumaine, où elle eut enfin assouvi son cœur malade, sa chair lassée. Quand le lac et les petits bois, évanouis dans l'ombre, ne furent plus au ras du ciel qu'une barre noire, la jeune femme se retourna brusquement et, d'une voix où il y avait des larmes de dépit, elle reprit sa phrase interrompue. « Quoi ? Autre chose, parbleu ! Je veux autre chose ! Est-ce que je sais, moi ? Si je le savais ! Mais vois-tu, j'ai assez de bals, assez de soupers, assez de fêtes comme cela. C'est toujours la même chose, c'est mortel. Les hommes sont assommants, oh oui, assommants. » Maxime se mit à rire. Des ardeurs perçaient sous les mines aristocratiques de la grande mondaine. Elle ne clignait plus des paupières, la ride de son front se creusait durement, sa lèvre d'enfant boudeur s'avançait, chaude, en quête de ces jouissances qu'elle souhaitait, sans pouvoir les nommer. Elle vit le rire de son compagnon, mais elle était trop frémissante pour s'arrêter. À demi couchée, se laissant aller au bercement de la voiture, elle continua, par petites phrases sèches. Certes, oui, vous êtes assommant. Je ne dis pas cela pour toi, Maxime, tu es trop jeune. Mais si je te contais combien Aristide m'a pesé dans les commencements, et les autres donc, ceux qui m'ont aimé. Tu sais, nous sommes deux bons camarades, je ne me gêne pas avec toi. Eh bien, vrai, il y a des jours où je suis tellement lasse de vivre ma vie de femme riche, adorée, saluée, que je voudrais être une Lord Origny, une de ces dames qui vivent en garçon. Et comme Maxime riait plus haut, elle insista. « Oui, une Lord Origny, ça doit être moins fade, moins toujours la même chose. » Elle se tut quelques instants, comme pour s'imaginer la vie qu'elle mènerait, si elle était Lord. Puis, d'un ton découragé, « Après tout, reprit-elle, ces dames doivent avoir leurs ennuis, elles aussi. Rien n'est drôle, décidément. C'est à mourir, je le disais bien. Il faudrait autre chose. Tu comprends, moi, je ne devine pas. Mais autre chose, quelque chose qui n'arriva à personne, qu'on ne rencontra pas tous les jours, qui fût une jouissance rare, inconnue. » Sa voix s'était ralentie. Elle prononça ces derniers mots, cherchant, s'abandonnant à une rêverie profonde. La calèche montait alors l'avenue qui conduit à la sortie du bois. L'ombre croissait, les taillis couraient, aux deux bords, comme des murs grisâtres. Les chaises de fonte, peintes en jaune, où s'étale par les beaux soirs la bourgeoisie endimanchée, filaient le long des trottoirs, toutes vides, ayant la mélancolie noire de ces meubles de jardin que l'hiver surprend. Et le roulement, le bruit sourd et cadencé des voitures qui rentraient, passait comme une plainte triste dans l'allée déserte. Sans doute, Maxime sentit tout le mauvais ton qu'il y avait à trouver la vie drôle. S'il était encore assez jeune pour se livrer à un élan d'heureuse admiration, il avait un égoïsme trop large, une indifférence trop railleuse. Il éprouvait déjà trop de lassitude réelle pour ne pas se déclarer écœuré, blasé, fini. D'ordinaire, il mettait quelque gloire à cet aveu. Il s'allongea comme René. Il prit une voix dolente. « Tiens, tu as raison, dit-il. C'est crevant. Va, je ne m'amuse guère plus que toi. J'ai souvent aussi rêvé autre chose. Rien n'est bête comme de voyager. Gagner de l'argent, j'aime encore mieux en manger, quoique ce ne soit pas toujours aussi amusant qu'on se l'imagine d'abord. Aimer, être aimé, on en a vite plein le dos, n'est-ce pas? Ah oui, on en a plein le dos. » La jeune femme ne répondant pas, il continua, pour la surprendre par une grosse impiété. Moi, je voudrais être aimée par une religieuse. Hein? Ce serait peut-être drôle. Tu n'as jamais fait le rêve, toi, d'aimer un homme auquel tu ne pourrais penser sans commettre un crime? Mais elle resta sombre, et Maxime, voyant qu'elle se taisait toujours, crut qu'elle ne l'écoutait pas. La nuque appuyée contre le bord capitonné de la calèche, elle semblait dormir les yeux ouverts. Elle songeait, inerte, livrée au rêve qui la tenait ainsi affaissée. Et par moments, de légers battements nerveux agitaient ses lèvres. Elle était mollement envahie par l'ombre du crépuscule. Tout ce que cette ombre contenait de tristesse, de discrète volupté, d'espoir inavoué, la pénétrait, la baignait dans une sorte d'air alangui et morbide. Sans doute, tandis qu'elle regardait fixement le dos rond du valet de pied assis sur le siège, elle pensait à ses joies de la veille, à ses fêtes qu'elle trouvait si fades, dont elle ne voulait plus. Elle voyait sa vie passée, le contentement immédiat de ses appétits, l'écœurement du luxe, la monotonie écrasante des mêmes tendresses et des mêmes trahisons. Puis, comme une espérance, se levait en elle avec des frissons de désir, l'idée de cette autre chose que son esprit tendu ne pouvait trouver. Là, sa rêverie s'égarait. Elle faisait effort, mais toujours le mot « chercher » se dérobait dans la nuit tombante, se perdait dans le roulement continu des voitures. Le bercement souple de la calèche était une hésitation de plus qui l'empêchait de formuler son envie. Et une tentation immense montait de ce vague, de ces taillis que l'ombre endormait au debord de l'allée, de ce bruit de roue et de cette oscillation molle qui l'emplissait d'une torpeur délicieuse. Mille petits souffles lui passaient sur la chair. Songeries inachevées, voluptés innommées, souhaits confus. Tout ce qu'un retour du bois, à l'heure où le ciel pâlit, peut mettre d'exquis et de monstrueux dans le cœur lassé d'une femme. Elle tenait ses deux mains enfouies dans la peau d'ours. Elle avait très chaud sous son paletot de drap blanc, au revers de velours mauve. Comme elle allongeait un pied pour se détendre dans son bien-être, elle frôla de sa cheville la jambe tiède de Maxime, qui ne prit même pas garde à cet attouchement. Une secousse la tira de son demi-sommeil. Elle leva la tête, regardant étrangement de ses yeux gris le jeune homme vautré en toute élégance. À ce moment, la calèche sortit du bois. La venue de l'impératrice s'allongeait, toute droite, dans le crépuscule, avec les deux lignes vertes de ses barrières de bois peint qui allaient se toucher à l'horizon. Dans la contre-allée réservée aux cavaliers, un cheval blanc, au loin, faisait une tache claire, trouant l'ombre grise. Il y avait, de l'autre côté, le long de la chaussée, çà et là, des promeneurs attardés, des groupes de points noirs se dirigeant doucement vers Paris. Et tout en haut, au bout de la traînée grouillante et confuse des voitures, l'arc de triomphe, posé en biais, blanchissait sur un vaste pan de ciel couleur de suie. Tandis que la calèche remontait d'un trot plus vif, Maxime, charmé de l'allure anglaise du paysage, regardait, aux deux côtés de l'avenue, les hôtels d'architecture capricieuse dont les pelouses descendent jusqu'au contre-allée. René, dans sa songerie, s'amusait à voir au bord de l'horizon s'allumer un à un les becs de gaz de la place de l'Étoile. Et à mesure que ces lueurs vives tachaient le jour mourant de petites flammes jaunes, elle croyait entendre des appels secrets. Il lui semblait que le Paris flamboyant des nuits d'hiver s'illuminait pour elle, lui préparait la jouissance inconnue que rêvait son assouvissement. La calèche prit l'avenue de la reine Hortense et vint s'arrêter au bout de la rue Monceau, à quelques pas du boulevard Malesherbes, devant un grand hôtel situé entre cour et jardin. Les deux grilles chargées d'ornements dorés qui s'ouvraient sur la cour, étaient chacune flanquées d'une paire de lanternes, en forme d'urne également couverte de dorures, et dans lesquelles flambaient de larges flammes de gaz. Entre les deux grilles, le concierge habitait un élégant pavillon qui rappelait vaguement un petit temple grec. Comme la voiture allait entrer dans la cour, Maxime sauta lestement à terre. « Tu sais, lui dit René en le retenant par la main. « Nous nous mettons à table à 7h30. Tu as plus d'une heure pour aller t'habiller. Ne te fais pas attendre. » Et elle ajouta avec un sourire. « Nous aurons les Mareuil. Ton père désire que tu sois très galant avec Louise. » Maxime haussa les épaules. « En voilà une corvée, murmura-t-il d'une voix maussade. « Je veux bien épouser, mais faire sa cour, c'est trop bête. » « Ah, que tu serais gentille, René, si tu me délivrais de Louise ce soir !» Il prit son air drôle, la grimace et l'accent qu'il empruntait à la souche chaque fois qu'il allait débiter une de ses plaisanteries habituelles. « Veux-tu, belle maman chérie ? » René lui secoua la main comme à un camarade. Et, d'un ton rapide, avec une audace nerveuse de raillerie, « Hé, si je n'avais pas épousé ton père, je crois que tu me ferais la cour !» Le jeune homme dut trouver cette idée très comique, car il avait déjà tourné le coin du boulevard Malesherbes qu'il riait encore. La calèche entra et vint s'arrêter devant le perron. Ce perron, aux marches larges et basses, était abrité par une vaste marquise vitrée, bordée d'un lambrequin à franges et à glands d'or. Les deux étages de l'hôtel s'élevaient sur des offices, dont on apercevait, presque au ras du sol, les soupiraux carrés garnis de vitres dépolies. En haut du perron, la porte du vestibule avançait, flanquée de maigres colonnades prises dans le mur, formant ainsi une sorte d'avant-corps percé à chaque étage d'une baie arrondie et montant jusqu'au toit, où il se terminait par un delta. De chaque côté, les étages avaient 5 fenêtres, régulièrement alignées sur la façade, entourées d'un simple cadre de pierre. Le toit, mansardé, était taillé carrément, à large pan, presque droit. Mais, du côté du jardin, la façade était autrement somptueuse. Un perron royal conduisait à une étroite terrasse qui régnait tout le long du rez-de-chaussée. La rampe de cette terrasse, dans le style des grilles du parc Monceau, était encore plus chargée d'or que la marquise et les lanternes de la cour. Puis l'hôtel se dressait, ayant aux angles 2 pavillons, 2 sortes de tours engagées à demi dans le corps du bâtiment, et qui ménageaient à l'intérieur des pièces rondes. Au milieu, une autre tourelle plus enfoncée se renflait légèrement. Les fenêtres, hautes et minces pour les pavillons, espacées davantage et presque carrées sur les parties plates de la façade, avaient, au rez-de-chaussée, des balustrades de pierre et des rampes de fer forgé et doré aux étages supérieurs. C'était un étalage, une profusion, un écrasement de richesses. L'hôtel disparaissait sous les sculptures. Autour des fenêtres, le long des corniches, couraient des enroulements de rameaux et de fleurs. Il y avait des balcons pareils à des corbeilles de verdure que soutenaient de grandes femmes nues, les hanches tordues, les pointes des seins en avant. Puis, çà et là, étaient collés des écussons de fantaisie, des grappes, des roses, toutes les efflorescences possibles de la pierre et du marbre. À mesure que l'œil montait, l'hôtel fleurissait davantage. Autour du toit régnait une balustrade sur laquelle étaient posées, de distance en distance, des urnes où des flammes de pierre flambaient. Et là, entre les œils de bœuf des mansardes, qui s'ouvraient dans un fouillis incroyable de fruits et de feuillages, s'épanouissaient les pièces capitales de cette décoration étonnante. Les frontons des pavillons, au milieu desquels reparaissaient les grandes femmes nues, jouant avec des pommes, prenant des poses parmi des poignées de joncs. Le toit, chargé de ses ornements, surmonté encore de galeries de plomb découpé, de 2 paratonnerres et de 4 énormes cheminées symétriques, sculptées comme le reste, semblait être le bouquet de ce feu d'artifice architectural. À droite se trouvait une vaste serre, scellée au flanc même de l'hôtel, communiquant avec le rez-de-chaussée par la porte-fenêtre d'un salon. Le jardin, qu'une grille basse masquée par une haie séparait du parc Monceau, avait une pente assez forte. Trop petit pour l'habitation, si étroit qu'une pelouse et quelques massifs d'arbres verts l'emplissaient, il était simplement comme une butte, comme un socle de verdure, sur lequel se campait fièrement l'hôtel en toilette de gala. À la voire du parc, au-dessus de ce gazon propre, de ces arbustes dont les feuillages vernis luisaient, cette grande bâtisse, neuve encore et toute blafarde, avait la face blême, l'importance riche et sotte d'une parvenue, avec son lourd chapeau d'ardoise, ses rampes dorées, son ruissellement de sculpture. C'était une réduction du nouveau Louvre, un des échantillons les plus caractéristiques du style Napoléon III, ce bâtard opulent de tous les styles. Les soirs d'été, lorsque le soleil oblique allumait l'or des rampes sur la façade blanche, les promeneurs du parc s'arrêtaient, regardaient les rideaux de soie rouge drapés aux fenêtres du rez-de-chaussée, et, au travers des glaces si larges et si claires qu'elles semblaient comme les glaces des grands magasins modernes, mises là pour étaler au dehors le faste intérieur, ces familles de petits bourgeois apercevaient des coins de meubles, des bouts d'étoffe, des morceaux de plafond d'une richesse éclatante, dont la vue les clouait d'admiration et d'envie au beau milieu des allées. Mais à cette heure, l'ombre tombait des arbres, la façade dormait. De l'autre côté, dans la cour, le valet de pied avait respectueusement aidé René à descendre de voiture. Les écuries, à bandes de briques rouges, ouvraient, à droite, leurs larges portes de chêne brunies, au fond d'un hangar vitré. À gauche, comme pour faire le pendant, il y avait, collée au mur de la maison voisine, une niche très ornée dans laquelle une nappe d'eau coulait perpétuellement d'une coquille que deux amours tenaient à bras tendus. La jeune femme resta un instant au bas du perron, donnant de légères tapes à sa jupe qui ne voulait point descendre. La cour, que venaient de traverser les bruits de l'attelage, reprit sa solitude, son silence aristocratique, coupé par l'éternelle chanson de la nappe d'eau. Et seuls encore, dans la masse noire de l'autel, où le premier des grands dîners de l'automne allait bientôt allumer ses lustres, les fenêtres basses flambaient, toutes brasillantes, jetant sur le petit pavé de la cour, régulier et net comme un damier, des lueurs vives d'incendie. Comme René poussait la porte du vestibule, elle se trouva en face du valet de chambre de son mari, qui descendait aux offices, tenant une bouilloire d'argent. Cet homme était superbe, tout de noir habillé, grand, fort, la face blanche, avec les favoris corrects d'un diplomate anglais, l'air grave et digne d'un magistrat. « Baptiste, demanda la jeune femme, monsieur est-il rentré ?»«
Oui, madame, il s'habille, » répondit le valet avec une inclination de tête que lui aurait envié un prince saluant la foule.
René monta lentement l'escalier en retirant ses gants. Le vestibule était d'un grand luxe. En entrant, on éprouvait une légère sensation d'étouffement. Les tapis épais qui couvraient le sol et qui montaient les marches, les larges tentures de velours rouge qui masquaient les murs et les portes, alourdissaient l'air d'un silence, d'une senteur tiède de chapelle. Les draperies tombaient de haut, et le plafond, très élevé, était orné de rosaces saillantes posées sur un treillis de baguettes d'or. L'escalier, dont la double balustrade de marbre blanc avait une rampe de velours rouge, s'ouvrait en deux branches légèrement tordues et entre lesquelles se trouvait, au fond, la porte du grand salon. Sur le premier palier, une immense glace tenait tout le mur. En bas, au pied des branches de l'escalier, sur des socles de marbre, deux femmes de bronze doré, nues jusqu'à la ceinture, portaient de grands lampadaires à cinq-bec, dont les clartés vives étaient adoucies par des globes de verre dépoli. Et des deux côtés s'alignaient d'admirables pots de majolique dans lesquels fleurissaient des plantes rares. René montait.
et à chaque marche, elle grandissait dans la glace. Elle se demandait, avec ce doute des actrices les plus applaudies, si elle était vraiment délicieuse, comme on le lui disait. Puis, quand elle fut dans son appartement, qui était au premier étage et dont les fenêtres donnaient sur le parc Monceau, elle sonna Céleste, sa femme de chambre, et se fit habiller pour le dîner. Cela dura 5 bons quarts d'heure. Lorsque la dernière épingle eut été posée, comme il faisait très chaud dans la pièce, elle ouvrit une fenêtre, s'accouda, s'oublia. Derrière elle, Céleste tournait discrètement, rangeant un à un les objets de toilette. En bas, dans le parc, une mer d'ombre roulait. Les masses couleur d'encre des hauts feuillages, secoués par de brusques rafales, avaient un large balancement de flux et de reflux, avec ce bruit de feuilles sèches qui rappelle l'égouttement des vagues sur une plage de cailloux. Seul, rayant par instants ce remous de ténèbres, les deux yeux jaunes d'or d'une voiture paraissaient et disparaissaient entre les massifs, le long de la grande allée qui va de l'avenue de la Reine Hortense au boulevard Malesherbes. René, en face de ces mélancolies de l'automne, sentit toutes ces tristesses lui remonter au cœur. Elle se revit enfant dans la maison de son père, dans cet hôtel silencieux de l'île Saint-Louis, où, depuis 2 siècles, les béraux du Châtel mettaient leur gravité noire de magistrat. Puis elle songea au coup de baguette de son mariage, à ce veuf qui s'était vendu pour l'épouser, qui avait troqué son nom de Rougon contre ce nom de Saccard, dont les 2 syllabes sèches avaient sonné à ses oreilles les premières fois, avec la brutalité de 2 râteaux ramassant de l'or. Il la prenait, il la jetait dans cette vie à outrance, où sa pauvre tête se détraquait un peu plus tous les jours. Alors elle se mit à rêver, avec une joie puérile, aux belles parties de raquettes qu'elle avait faites jadis avec sa jeune sœur Christine. Et, quelques matins, elle s'éveillerait du rêve de jouissance qu'elle faisait depuis 10 ans, folle, salie par une des spéculations de son mari, dans laquelle il se noirait lui-même. Ce fut comme un pressentiment rapide. Les arbres se lamentaient à voix plus haute. René, troublé par ses pensées de honte et de châtiment, céda aux instincts de vieille et honnête bourgeoisie qui dormait au fond d'elle. Elle promit à la nuit noire de s'amender, de ne plus tant dépenser pour sa toilette, de chercher quelque jeu innocent qui pût la distraire, comme aux jours heureux du pensionnat, lorsque les élèves chantaient « Nous n'irons plus au bois » en tournant doucement sous ses platanes. À ce moment, Céleste, qui était descendue, rentra et murmura à l'oreille de sa maîtresse « « Monsieur prie madame de descendre, il y a déjà plusieurs personnes au salon. » Renée tressaillit. Elle n'avait pas senti l'air vif qui glaçait ses épaules. En passant devant son miroir, elle s'arrêta, se regarda d'un mouvement machinal. Elle eut un sourire involontaire et descendit. En effet, presque tous les convives étaient arrivés. Il y avait en bas sa sœur Christine, une jeune fille de 20 ans, très simplement mise en mousseline blanche. Sa tante Élisabeth, la veuve du notaire Roberto, en satin noir, petite vieille de 60 ans, d'une amabilité exquise. La sœur de son mari, Sidonie Rougon, femme maigre, doucereuse, sans âge certain, au visage de cire molle, et que sa robe de couleur éteinte effaçait encore davantage. Puis les Mareuil, le père, monsieur de Mareuil, qui venait de quitter le deuil de sa femme, un grand bel homme, vide, sérieux, ayant une ressemblance frappante avec le valet de chambre Baptiste. Et la fille, cette pauvre Louise, comme on la nommait, une enfant de 17 ans, chétive, légèrement bossue, qui portait avec une grâce maladive une robe de foulard blanc à pois rouges. Puis tout un groupe d'hommes graves, gens très décorés, messieurs officiels à tête blêmes et muettes, et plus loin un autre groupe, des jeunes hommes, l'air vicieux, le gilet largement ouvert, entourant cinq ou six dames de haute élégance, parmi lesquelles trônaient les inséparables, la petite marquise d'Espanay en jaune et la blonde madame Hafner en violet. Monsieur de Mussy, ce cavalier, au salut duquel René n'avait pas répondu, était là également, avec la mine inquiète d'un amant qui sent venir son congé. Et, au milieu des longues traînes étalées sur le tapis, deux entrepreneurs, deux maçons enrichis, les Mignons et Charrier, avec lesquels Saccard devait terminer une affaire le lendemain, promenaient lourdement leurs fortes bottes, les mains derrière le dos, crevant dans leur habit noir. Aristide Saccard, debout auprès de la porte, tout en pérorant devant le groupe des hommes graves, avec son nasillement et sa verve de méridional, trouvait le moyen de saluer les personnes qui arrivaient. Il leur serrait la main, leur adressait des paroles aimables. Petit, la mine chafouine, il se pliait comme une marionnette. Et de toute sa personne grêle, rusée, noirâtre, ce qu'on voyait le mieux, c'était la tache rouge du ruban de la Légion d'honneur qu'il portait très large. Quand René entra, il y eut un murmure d'admiration. Elle était vraiment divine. Sur une première jupe de tulle, garnie derrière d'un flot de rubans, elle portait une tunique de satin vert tendre, bordée d'une haute dentelle d'Angleterre, relevée et attachée par de grosses touffes de violettes. Un seul volant garnissait le devant de la jupe, où des bouquets de violettes, reliés par des guirlandes de lierre, fixaient une légère draperie de mousseline. Les grâces de la tête et du corsage étaient adorables, au-dessus de ses jupes, d'une ampleur royale et d'une richesse un peu chargée. Décolletée jusqu'à la pointe des seins, les bras découverts, avec des touffes de violettes sur les épaules, la jeune femme semblait sortir toute nue de sa gaine de tulle et de satin, pareille à une de ces nymphes dont le buste se dégage des chaînes sacrées. Et sa gorge blanche, son corps souple, était déjà si heureux de sa demi-liberté que le regard s'attendait toujours à voir peu à peu le corsage et les jupes glisser, comme le vêtement d'une baigneuse folle de sa chair. Sa coiffure haute, ses fins cheveux jaunes retroussés en forme de casque et dans lesquels courait une branche de lierre retenue par un nœud de violette, augmentait encore sa nudité en découvrant sa nuque que des poils follets, semblables à des fils d'or, ombraient légèrement. Elle avait, au cou, une rivière à pendeloques d'une eau admirable, et sur le front, une aigrette faite de brins d'argent, constellée de diamants. Et elle resta ainsi quelques secondes sur le seuil, debout dans sa toilette magnifique, les épaules moirées par les clartés chaudes. Comme elle avait descendu vite, elle soufflait un peu. Ses yeux, que le noir du parc Monceau avait emplis d'ombre, clignaient devant ce flot brusque de lumière, lui donnait cet air hésitant des myopes qui était chez elle une grâce. En l'apercevant, la petite marquise se leva vivement, courut à elle, lui prit les deux mains. Et, tout en l'examinant des pieds à la tête, elle murmurait d'une voix flûtée « Ah, chère belle, chère belle !» Cependant, il y eut un grand mouvement. Tous les convives vinrent saluer la belle madame Saccard, comme on nommait René dans le monde. Elle toucha la main presque à tous les hommes. Puis elle embrassa Christine en lui demandant des nouvelles de son père, qui ne venait jamais à l'hôtel du parc Monceau. et elle restait debout, souriante, saluant encore de la tête, les bras mollement arrondis, devant le cercle des dames qui regardaient curieusement la rivière et les grettes. La blonde madame Hafner ne put résister à la tentation. Elle s'approcha, regarda longuement les bijoux et dit d'une voix jalouse « C'est la rivière et les grettes, n'est-ce pas ?» René fit un signe affirmatif. Alors toutes les femmes se répandirent en éloges. Les bijoux étaient ravissants, divins. Puis elles en vinrent à parler, avec une admiration pleine d'envie, de la vente de l'or d'Origny, dans laquelle Saccard les avait achetés pour sa femme. Elles se plaignirent de ce que ses filles enlevaient les plus belles choses. Bientôt il n'y aurait plus de diamants pour les honnêtes femmes. Et dans leurs plaintes, perçait le désir de sentir sur leur peau nue un de ces bijoux que tout Paris avait vu aux épaules d'une impure illustre, et qui leur conterait peut-être à l'oreille les scandales des alcôves où s'arrêtaient si complaisamment leurs rêves de grandes dames. Elles connaissaient les gros prix. Elles citèrent un superbe cachemire, des dentelles magnifiques. Les grettes avaient coûté 15 000 francs, la rivière 50 000 francs. Madame d'Espanay était enthousiasmée par ces chiffres. Elle appela Saccard, elle lui cria « Venez donc qu'on vous félicite, voilà un bon mari !» Aristide Saccard s'approcha, s'inclina, fit de la modestie. Mais son visage grimaçant trahissait une satisfaction vive. Et il regardait du coin de l'œil les deux entrepreneurs, les deux maçons enrichis, plantés à quelques pas, écoutant sonner les chiffres de 15 000 et de 50 000 francs avec un respect visible. À ce moment, Maxime, qui venait d'entrer, adorablement pincé dans son habit noir, s'appuya avec familiarité sur l'épaule de son père et lui parla bas comme à un camarade en lui désignant les maçons d'un regard. Saccard eut le sourire discret d'un acteur applaudi. Quelques convives arrivèrent encore. Il y avait au moins une trentaine de personnes dans le salon. Les conversations reprirent. Pendant les moments de silence, on entendait derrière les murs des bruits légers de vaisselle et d'argenterie. Enfin, Baptiste ouvrit une porte à deux battants et, majestueusement, il dit la phrase sacramentelle « Madame est servie ».